Deschamps. Je vous invite à venir nous rejoindre. Nous disposons maintenant d'une quinzaine de minutes de questions. Donc, la parole est à vous, que ce soit pour Mme Deschamps ou M. Deschamps.
Oui, bonjour, Jean-Marie Thérien, de l'Université de Montréal. Merci, Mylène. Ma question est pour toi. Dans l'enseignement que je fais en éthique de la recherche, les étudiants m'ont parlé beaucoup puisqu'ils ont des réflexions sur leur expérience. La détermination des auteurs, fausse paternité, est-ce que vous allez vous enligner aussi au fond de recherche par rapport aux règles des grandes revues, des requirements, là? Parce que les chercheurs québécois, s'ils veulent publier ailleurs, il faut qu'ils suivent des normes. Et c'est très clair dans les règles des grandes revues, il faut que tu aies contribué d'une façon substantielle. Il faut que tu sois capable de défendre le protocole. Et les étudiants me racontent le médecin qui a recruté, mais il apparaît dans la liste d'auteurs. Et dans le moment, ça fait partie des clauses grand-père. Comment changer ça? Parce que ça implique une question de justice entre les chercheurs, et il y en a qui, je m'excuse l'anglicisme, qui boostent leur CV avec la fausse paternité. OK? Et je ne sais pas si vous êtes enligné là-dessus. Le Conseil national de recherche du Canada a des choses très précises. Le groupe des trois conseils aussi. Et à un moment donné, il faudrait voir que tout s'enligne pour que les chercheurs voient clair là-dessus. Merci.
Merci. La semaine passée, j'étais aussi avec des étudiants à l'Université de Montréal qui me rapportaient la même chose. On va pas réinventer la roue dans ce domaine-là. Tu sais, je pense que le principe fondamental, c'est « t'as-tu contribué intellectuellement à cette publication? » Et là, je pense que les règles dans ce domaine-là sont écrites. La question, c'est plus « on a toujours fait ça comme ça ». On a besoin d'un changement de culture dans ce domaine-là. Je pense pas que j'ai besoin de réaffirmer des règles. Il y en a déjà pas mal décrites dans ce domaine-là. Je pense qu'on a plus besoin d'être sur le terrain pour dire, ben, on a toujours fait ça comme ça. Ça tient pas la route à l'égard des règles. Par contre, on a besoin, donc, d'avoir une autre façon de reconnaître des contributions que je vais appeler atypiques. Donc, le fait que le médecin est passé du temps à recruter des gens, même s'il n'a pas écrit le truc. Il faut que je puisse avoir une façon de reconnaître cette contribution-là. Je travaillais avant pour les biobanques, puis on se demandait comment on va reconnaître la contribution des gens qui montent les biobanques, mais qui ne font pas le projet de recherche. On a besoin d'avoir des méthodes alternatives de reconnaissance, puis pour l'instant, le pointage essentiel porte sur les publications. Donc, comme disait Pierre tantôt, le problème est peut-être ailleurs. Faut peut-être aller voir la source du problème, dire, ben, qu'est-ce qui compte dans le pointage là, pour booster le CV? Pour l'instant, effectivement, c'est les publications, mais je pense qu'il faut essayer de penser comment on pourrait mieux être capable d'intégrer les contributions de tous et chacun qui ne sont pas toujours la propriété intellectuelle ou la contribution intellectuelle au concept, à la rédaction, mais qui sont néanmoins des contributions essentielles qu'on souhaite voir reconnaître.
Bonjour, mon nom est Julie Brière, je suis infirmière coordonnatrice à l'hôpital Sainte-Justine. Vous avez parlé comment faire évoluer la recherche, la culture, tout ça. En fait, en résumé, vous avez dit qu'il faut avoir une ligne directrice, puis il faut s'en parler. Nous, on est nombreux à l'hôpital, c'est sûr, dans les CHU, tout ça, on est très nombreux. Ce que je trouve que je voulais juste ajouter, c'est bien d'adhérer, de se parler, que ça évolue, mais il faut qu'il y ait une action. Puis dans cette action-là, il faut que ça soit communiqué. Étant donné qu'on est très nombreux, des fois, la communication ne fait pas une communication en spirale. Fait que ça finit que, oups, on échappe des choses, puis finalement, on n'est pas tous uniformes dans l'hôpital. Fait que c'est bien d'évoluer, mais cette évolution de la culture, il faut absolument qu'elle soit communiquée. Puis je trouve que c'est un grand manquement qu'on a.
Je peux-tu me poser une question? Quel serait un outil de communication efficace? On en cherche parce qu'on se dit, oui, justement, il faut que je rejoigne plein de gens dans différents milieux. Qu'est-ce que je pourrais faire mieux pour vous rejoindre là où vous êtes en tenant compte qu'on est c'est des moving targets?
Okay. Ça comme ça. C'est sûr que j'ai pas peut-être la solution magique et j'ai pas une baguette, mais j'aurais une solution, c'est que le comité d'éthique, je pense, ils savent où ce qu'on s'en va. Tu sais, je pense que eux, dans leur bureau, ils connaissent ça. C'est simplement le faire des réunions aux gestionnaires ou faire plus de réunions. Ben plus de réunions. Je veux pas faire la réunionnite là non plus, mais que c'est mettons que les gestionnaires soient conscients de ça et que ça soit constant, qu'on en parle aux infirmières sur le plancher, que ça soit intégré par le gestionnaire et que ça vient de la direction. C'est comme ça.
Là, sur la question de culture et d'état d'esprit, à la suite de la publication du rapport Deschamps, il y avait eu une rencontre et le docteur Poisson, qui avait été l'instigateur, si vous voulez, était présent. Puis, on était quelques-uns, donc c'est pas une conversation d'un à un, et il me dit, « Monsieur Deschamps, il est 3 heures du matin, vous êtes au coin de la rue Peel et Sainte-Catherine, le feu vient de tourner au rouge, il n'y a pas un chat, pas un piéton, pas une voiture. Est-ce que vous passez sur le feu rouge? » Moi, je lui dis non. Lui, il me dit, « Moi, oui. » Parce que il faut voir l'ensemble du portrait. Et l'ensemble du portrait, c'est que les feux rouges sont là pour protéger le public, pour éviter les accidents. Alors là, comme il n'y a pas possibilité d'accident, je m'autorise à... Alors, il prenait un exemple de la vie commune, mais son état d'esprit, il n'en faisait pas abstraction quand il était en recherche. Et c'était le même état d'esprit. J'ai des femmes qui ont un cancer du sein, je pense que c'est le meilleur traitement. Alors, dans l'ensemble, je peux falsifier, je peux fabriquer des choses. C'est pour ça que si on veut changer la culture, il faut changer l'état d'esprit. Puis pour changer l'état d'esprit, il y a une technique qui s'appelle conversation sur le seuil. Let's have a conversation. On réunit des gens, puis on les fait parler. Vos connaissances de ci, vos connaissances de ça, parlez-moi. Puis là, les gens commencent à parler de différents, et c'est là que l'esprit commence à s'activer. Et à un moment donné, ils vont comprendre. Et c'est des réflexes qu'on va avoir. Quand je vous disais tantôt au Japon, il n'y a pas de papier. Tantôt, je descends, il y a un papier par terre. J'étais conditionné à le ramasser. C'est ça qu'il faut viser. Il y a des techniques qui existent. Puis il faut aller voir du côté de la psychologie. Mais moi, je me dis, si on veut changer la culture, il faut changer l'état d'esprit des gens. Puis il faut les faire réfléchir.
Bonjour, Béatrice Ezerman, comité d'éthique de la recherche C3S Vieille Capitale et partenaires. Alors merci pour vos conférences. J'ai deux questions, je m'étendrai pas sur les contenus, c'est pour Madame Deschênes. Ma première question, c'est pour porter plainte justement par rapport à l'intégrité d'un chercheur. S'il ne s'agit pas d'un chercheur de notre établissement mais d'un autre établissement, comment on fait? Et la deuxième question, c'est si le financement ne vient pas de chez vous, il faut vous ramener ça, mais voilà. Donc, ces deux questions, on se parlera sûrement dans les prochaines semaines, mais...
En matière de conduite responsable en recherche, le lien d'emploi est essentiel. Parce que la personne qui peut légalement mener un processus d'enquête, c'est l'employeur. Donc, quand vous me dites, si le chercheur, il n'est pas de chez nous, mais il vient de, bon, mettons, de l'université X, bien, c'est sûr que c'est l'université X qui va falloir, qui mène ce processus d'enquête-là. Ça pose toute la question des affiliations de recherche, là. Comment on gère cette situation-là où les gens ont des doubles affiliations ou
du conflit d'intérêts, tout simplement, parce qu'il y a des établissements qui ne voudront pas que leurs chercheurs soient pointés du doigt parce qu'ils ramènent des millions à leur établissement. Et ça, là, je pense que c'est une question à se poser.
La question du conflit d'intérêts des établissements, ou en tout cas, je vais appeler ça des intérêts que pourraient avoir les établissements par rapport aux chercheurs, on la mettra pas sous le tapis, là, c'est une vraie question. Je pense qu'on a essayé, en se plaçant le Fonds de recherche du Québec ou toute agence de financement comme étant une personne à qui il doit y avoir reddition de compte. Et là, dans le processus qu'on met en place, quand il y a une allégation, elle se rend chez nous, là, la simple allégation, avant même que l'enquête soit menée, elle se rend chez nous. On sait qu'il y a un drapeau de levée, là, il se passe quelque chose. c'est pas parfait, mais ça met un contrepoids pour dire c'est pas juste l'établissement tout seul, entre amis, qui est en train de faire quelque chose. Une autre chose que dans la politique, pour essayer d'assurer des contrepoids, c'est que le comité d'enquête en question doit avoir au moins une personne de l'extérieur de l'établissement et à tout le moins que cette proportion-là soit maintenue. Il ne faut pas que la personne soit noyée à travers beaucoup, beaucoup de monde si jamais le comité devient très gros. Donc, je pense qu'on peut essayer de mettre des contrepoids en place. C'est pas parfait, mais je pense que les établissements n'ont pas plus intérêt à ce qui se passe des situations où ils ont caché, couvert ou entretenu des chercheurs qui faisaient mal la recherche ou qui ne soutenaient pas l'activité de recherche de manière adéquate. Ça va, eux aussi, ça va les rattraper, puis il n'y a pas de date de péremption là, sur la crédibilité, comme je disais tantôt. Là. Donc, mais je suis sensible à cette question-là.
Pensez à la CBC. Hein? Un animateur vedette, on laisse ça couver, puis regardez ce que ça donne. Regardez à la ministre de l'Éducation en Allemagne, regardez au Parlement canadien. À un moment donné, ça nous rattrape. Puis il faut utiliser ces exemples-là pour dire à nos institutions, est-ce que vous voulez vraiment vous retrouver dans une situation comme ça? Puis là, il faut faire réfléchir ces gens-là.
Puis, pardon, pour ma deuxième question, si le financement ne vient pas de chez vous, il faut quand même vous envoyer le rapport à vous?
Dans notre cas, c'est notre intervention à nous est strictement liée à du financement. Okay. La seule exception à ça, c'est les centres de recherche FRQS. On présume que les activités qui se déroulent dans nos centres de recherche FRQS sont des activités FRQS, même s'il y a du financement qui vient de l'externe. Okay.
Bonjour Pierre et Mylène, merci beaucoup pour vos présentations, dont une très courageuse malgré les embûches techniques. La première intervention m'a ramené à l'esprit une discussion que j'ai soulevée à multiples reprises lorsqu'on a discuté de la politique aux trois fonds, qui est que il y a un danger, en tout cas dans l'immédiat, à ce que les milieux de recherche fasse une adéquation entre les politiques de recherche de conduite responsable en recherche et les comités d'éthique, comme quoi ce serait une affaire des comités d'éthique. La conduite responsable en recherche est beaucoup plus large que ça. Ça interpelle évidemment les comités d'éthique de façon particulière, mais il y a plusieurs aspects dans ça qui en dépassent, et je pense que Suzanne Zimmerman, peut-être dans son intervention à venir ou dans sa présentation, reviendra sur ce point qu'on avait d'ailleurs discuté ensemble aux trois fonds.
Merci de nous donner l'occasion d'en discuter. Si j'avais pu vous montrer le graphique, j'avais justement un beau petit dessin pour montrer le rôle du comité d'éthique. Dans ce comité d'éthique peut soulever des problématiques en matière de conduite responsable, mais quand c'est le temps de mener des enquêtes, ce n'est pas le comité d'éthique qui a compétence, clairement. Moi, j'ai même vu des situations où le comité d'éthique était dans une situation un peu embarrassante. Donc, je pense qu'il faut vraiment, c'est, comme on dit, la conduite responsable, c'est large, ce fil-là. Ça inclut les aspects obligatoires, normatifs de l'éthique de la recherche, mais il y a bien plus que ça aussi. Donc, dans ce contexte-là, il faut s'en remettre à une autre entité. Mais vous pourriez, en tant que membre du comité d'éthique, appeler la personne chargée de la conduite responsable en recherche et dire, écoutez, on a un gros problème. Là, on vient de découvrir un gros problème et on vous remet le dossier.
Mahmoud Rouabi, Université Laval, président du comité d'éthique en sciences de la santé. Je continue sur ce que vous disiez tout à l'heure. Je ne pense pas que le comité d'éthique est capable de déceler une conduite irresponsable en recherche parce que, normalement, et parfois ses fonctions, le comité d'éthique étudie le projet dès le début. Il va évaluer son application correcte ou non par rapport aux participants et, en quelque sorte, par rapport à l'évaluation scientifique. Or, par moment, et assez souvent, surtout s'il s'agit de projets de recherche venant d'étudiants, assez souvent ces projets de recherche-là ne sont pas évalués scientifiquement par un comité. Donc, le comité d'éthique doit se démêler avec la validité scientifique, mais surtout l'évaluation éthique. Donc, je ne pense pas que, dès le début, le comité d'éthique peut prendre une telle responsabilité sur ce qui va venir plus tard avec ses retombées scientifiques et bloquer ou ne pas bloquer, avertir ou ne pas avertir. Ceci étant dit, ma question est plutôt donc une question philosophique. Est-ce que l'éthique et la conduite responsable en recherche n'est pas le parent pauvre ou n'est pas, disons, victime de tout ce qui tourne autour de la suite de ce qui va venir avec la recherche? Vous savez, actuellement, depuis le temps, c'est la course derrière la première place. J'ai une molécule, ou je pense avoir une molécule de nouvelle, je vais essayer de faire tout en sorte pour que cette molécule-là ou cette idée-là évolue et que ce soit avec l'université ou avec la province ou peu importe, pour être le premier sur le marché. Donc en fin de compte, l'éthique se trouve à être le parent pauvre de cette course effrénée derrière la première place. Occuper tout avant mon compétiteur. Et peu importe, on essaie de réduire ou ne pas réduire cette compétition, elle va toujours être là parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et la survie, que ce soit sur le plan formation d'étudiants, que ce soit sur le plan évolution scientifique, ainsi de suite.
Ben, je suis d'accord que la pression va toujours être là. Je le disais tantôt, on peut essayer d'éliminer certains points de pression, rendre des choses plus faciles. La pression va être là. C'est pas propre au domaine scientifique qu'il y ait de la pression. Puis les choix d'honnêteté, c'est des choix que vous faites dans votre vie de chercheur, c'est des choix que vous faites dans votre vie privée, c'est des choix que t'es banquier, les mêmes choses se passent. Donc je pense qu'on peut pas éliminer la responsabilité personnelle. Est-ce que c'est le parent pauvre? Moi, je pense que, c'est pour ça que j'arrête pas de dire, je pense qu'il faut pas voir la question de l'intégrité comme étant quelque chose d'accessoire à côté de l'activité de recherche. Là, pour moi, ça fait partie de l'activité de recherche. Je la fais bien, donc je la fais de façon intègre. Et dans cette perspective-là, faut se donner le moyen de bien le faire. Mais j'ai pas de réponse miracle non plus. Là. Je pense que c'est une grande question philosophique, comme vous dites.
Je ne veux pas trancher. C'est Susan Zimmerman de secrétariat. Je voulais juste ajouter un commentaire à la question de Béatrice, le souci de faire une allégation à une chercheure qui vient d'un autre établissement pour nous. Et je crois que c'est, peut-être vous l'avez commenté déjà, mais je voulais souligner simplement que quand vous faites une allégation formelle, nous on demande que vous donnez copie conforme à nous autres. Comme ça, nous sommes au courant qu'il y a une allégation et c'est nous qui vont faire le suivi avec l'établissement. Et que ça comprendre au fond ou non, au moins nous allons faire le suivi pour voir à ce que le processus soit complété. Alors il y a au moins ça, alors ça donne aussi une. Et je crois que c'est...
Mais nous, on ne l'a pas exigé. Si vous le faites, en fait, si vous amenez une allégation au fonds de recherche ou aux agences fédérales, nous c'est sûr qu'on va prendre note de ça. On va se faire un suivi auprès de l'établissement, mais c'est sûr que la plainte doit être dirigée à l'établissement. C'est pas moi qui va l'administrer. Elle va être dirigée en premier lieu vers l'établissement. Par contre, comme je disais, nous, on exige des établissements que lorsqu'ils reçoivent des allégations, ils doivent nous en faire part. C'est pas une information, comme je disais tantôt, qui vient chez nous de façon nominative. Je ne sais pas, à moins qu'on me le dise directement, là, mais je demande pas aux établissements qui me disent quels chercheurs sont concernés, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi le type de manquement? C'est quoi le type de manquement qui revient souvent sur lesquels on a besoin de faire du travail collectif parce que visiblement, c'est mal compris ou que ça soulève des questions, que ça soulève des mésententes, disons ça comme ça.
Je me permettrai une dernière question avant la pause. Maître Deschamps, vous avez insisté sur l'importance du travail en équipe, la collaboration, mais en même temps, vous avez dénoncé le manque là, de collaboration des différents acteurs en éthique. Les gens travaillent en silos séparés. Je vais vous retourner à la question du pourquoi. Avez-vous un peu une idée du pourquoi? Qu'est-ce qui, finalement, qui explique cela et qui permettrait des pistes pour adopter un mindset, pour reprendre vos mots, là, pour le futur là?
Je dirais comme prémisse, tout le monde veut bien faire. Puis tout le monde a un souci d'intégrité. Mais au-delà de ça, il y a le phénomène des chasses gardées. Ça m'appartient à moi. L'évaluation d'éthique, ça appartient à mon établissement, à mon comité d'éthique. Les autres comités d'éthique, on n'est pas sûr comment ils fonctionnent. Alors, aussi bien le faire chez nous, quitte à ce qu'il y ait une duplication, mais au moins, moi, je serai intègre par rapport à mon établissement, cette fidélité-là à l'établissement. Puis là, c'est un peu comme si on perdait de vue le grand ensemble, pour dire est-ce qu'on peut mieux faire puis assurer l'intégrité des projets de recherche, la bonne évaluation, en partageant des ressources. On met beaucoup d'emphase sur l'évaluation, mais moi, quand je vois des projets de recherche au comité où je suis, je me dis, on aurait dû faire beaucoup plus de travail avant. Mais pourquoi ce travail-là n'est pas fait? Parce qu'il manque de ressources. On dirait que les institutions ne comprennent pas qu'en donnant pas de ressources, on gaspille du temps. Puis c'est une source de grand gaspillage. Une utilisation judicieuse des ressources, peut-être plus en avant, avoir plus de gens qui vont regarder les projets avant même qu'ils aboutissent au comité d'éthique, ce serait une meilleure façon de faire. L'autre chose, on se dit, la protection, ça, c'est concentré sur l'évaluation. Mais tout le suivi, on ne l'assure pas, sauf un suivi passif. Je veux pas mettre l'Institut de cardiologie dans l'eau chaude, parce que je sais qu'il y a des représentants ici, mais j'avais fait une conférence, puis j'avais dit, c'est bien beau, tout ça, l'évaluation, mais qu'est-ce que vous faites après? Mais ils ont allumé, puis ils ont mis en place un projet de suivi pour aller voir sur le terrain qu'est-ce qui se faisait. Mais ça, c'est un endroit parmi d'autres, où est-ce qu'on a réagi en se disant, c'est vrai, la protection, c'est avant l'évaluation, puis c'est après l'évaluation. Il faut changer nos façons de faire, il faut s'interroger sur nos façons de faire, puis il faut arrêter de dire « c'est à moi, et je ne veux pas m'ouvrir, je ne veux pas voir de nouvelles façons ». Ce qu'on voit très souvent, la résistance au changement, elle est très forte. On ne veut pas, on ne peut pas concevoir que quelqu'un d'autre peut faire mieux que nous. Pour moi, ça m'apparaît un obstacle, et ce qui fait qu'on continue de travailler en silo au nom de « je pense que je peux mieux faire, puis de toute façon, c'est ici que ça doit se faire ». C'est pour ça que je dis l'important, c'est changer l'état d'esprit. Si on ne change pas l'état d'esprit, on va continuer à faire ce qu'on fait toujours. Et pour changer les états d'esprit, il faut avoir une approche collective, mais aussi il faut avoir une approche de proximité. De prendre des petits groupes de gens durant une heure ou deux heures, puis s'asseoir, puis les écouter. Ayons une conversation ensemble, pas un enseignement, une conversation. Dites-moi des choses. Et moi, je sais que ça fonctionne, pour l'avoir fait à plusieurs reprises, les gens vont s'exprimer. Puis souvent, ce que j'ai pu voir, parce que j'ai fait longtemps des évaluations à travers le Canada pour le Conseil national d'éthique, une fois qu'on a une conversation, on s'en va au café, il y a quelqu'un qui vous tient par la manche. Il y aurait quelque chose que j'aimerais vous dire, en privé. Puis là, les choses commencent à sortir. Les gens vous le disent, mais ils ne le disent pas à leur institution parce qu'ils n'ont pas eu une bonne réceptivité. Mais regardez, pour ça que je vous dis CBC, c'est important. Quelqu'un s'est adressé au directeur du programme qui a dit, l'executive producer, on va essayer de rendre ça moins toxique. Moins toxique. Il ne faut pas que ça soit toxique. Réfléchissez à ce qui se passe en société. Ce n'est pas différent de ce qui se passe en recherche. Et ce qui se passe en recherche, ce n'est pas différent de ce qui se passe en société. Mais pour revenir à votre question, je pense qu'il faut avoir un nouveau paradigme. Il faut avoir un nouvel état d'esprit. Puis il faut appeler à collaborer. Et de ne pas voir le chercheur comme ennemi, c'est trop fort, adversaire, c'est encore trop fort, mais essayer de voir comment on peut collaborer pour arriver au but commun qu'on a souvent perdu de vue, non seulement au niveau de l'éthique, mais au niveau des entreprises. Est-ce qu'une entreprise est là pour faire de l'argent? Ce n'est pas une bonne réponse. Une entreprise est là pour développer un produit. C'est sûr qu'elle ne veut pas perdre de l'argent. Mais comme on dit, les pressions de l'industrie, les pressions des actionnaires font que, comme disait Mylène, les pressions sont tellement fortes qu'à un moment donné, les gens commencent à agir contrairement à ce qui devrait être fait. Les frustrations sont tellement grandes. Quelqu'un disait dans un article, qu'est-ce qui fait que les chercheurs enfreignent les lois ou les règles? C'est parce qu'à un moment donné, ils sont tellement frustrés qu'ils se disent... « The hell », en français, ce serait une autre traduction. Mais on dit, c'est ça. Puis regardez dans votre vie, vous êtes dans un bouchon de circulation, puis vous devez vous rendre au cinquième colloque du FRSQ, puis là, c'est bloqué. Vous allez essayer, si vous pouvez, rentrer dans la ligne des autobus pour pouvoir... Regardez comment on fait. C'est comme ça que ça se passe en recherche.
Alors, une fois de plus, merci à nos conférenciers. C'est maintenant l'heure de la pause.